Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité. Nous avons quitté la Minerve et nous nous sommes dirigés vers une toute petite église qui s'appelle, je vais le dire en français, Saint-Jean-Baptiste. Bon, l'autre, je vais le dire en italien, de la Pigna. La Pigna, c'est comme la pomme de pin, un pin. Vous savez, l'arbre du pin, il y a comme une cocotte, on va dire une cocotte chez nous, mais il y a la place de la Pigna et on trouve cette église dédiée à Saint Jean-Baptiste. C'est petit, c'est simple, c'est sobre. Ce qui m'a frappé, je vais vous le dire, c'est la grande toile que nous voyons dans le cœur de l'église, où on représente Saint Jean-Baptiste. Il est jeune. Souvent, on voit la décapitation de Jean-Baptiste. C'est pas drôle, parce que là, on sent non seulement que la tête a été tranchée, mais on ne saisit pas la jeunesse de cet homme. Et là, dans cette église, on le voit, il est assis, il est jeune. Et je me disais, c'est vrai, Jean-Baptiste, quand il est décapité, à l'âge à peu près de 30 ans, c'est le cousin de Jésus, le précède de 6 mois. Alors, Jésus va mourir après. Jean le Baptiste meurt avant. Jésus en est informé. Il en est blessé, tristement, nous montrent les Écritures. Alors, le Baptiste, il est jeune. C'est un homme dans la trentaine, début trentaine. Alors, c'est ce qui m'a touché. Et je me disais, où sommes-nous? Où avons-nous été à 30 ans? Où sommes-nous encore à 30 ans pour manifester notre foi, notre amour de Dieu? Où sont les trentenaires, hommes et femmes, qui se tiennent dans le désert de ce monde, comme le Baptiste, redresser les chemins de Dieu? C'est ça le message du Baptiste, qui s'en va au désert et qui attire les foules, et qui donne un baptême de repentance, et qui permet aux gens d'entendre une parole forte. Le Baptiste, il n'est pas complaisant. C'est une parole forte, c'est une parole, je dirais, structurante, comme on dit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que vous allez faire comme peuple de votre vie? Vous voyez bien que tout s'en va de travers. Eh bien, moi, j'ai été envoyé par Yahvé Adonai pour redresser les chemins, les sentiers tortueux, pour redonner du tonus à votre vie. Partagez. Il dira même aux soldats, contentez-vous de votre solde. Arrêtez de penser à trouver des trésors partout. Quand vous travaillez, contentez-vous de ce que vous avez. Partagez. Cessez d'accumuler. Redressez-vous. Et le baptême de repentance, c'est cela. Qu'avons-nous été à 30 ans? Et que sommes-nous, les trentenaires? Est-ce que nous avons cette vision d'une vie qui espère la droiture et la justice? Alors c'est ce qui m'a frappé dans cette petite église de Saint-Jean-Baptiste. Et ensuite, nous sommes repartis vers une autre direction qui nous a fait nous arrêter dans une église dédiée au saint stigmate. Le mot stigmate est masculin. Au saint stigmate de saint François d'Assise. François d'Assise est le patron de l'Italie, on le sait. Donc, c'est le saint qui est le plus aimé, je pense, en Italie. François d'Assise. Alors, on a fait une église pour rappeler qu'il a reçu les stigmates, c'est-à-dire les plaies du Christ. Et cela, c'est au mont de l'Alverne, où je me suis rendu déjà, je vous en ai déjà parlé. Donc, François d'Assise a reçu les stigmates, et c'est un acte d'amour. Il a voulu qu'en son être et dans son cœur, il puisse ressentir tout l'amour que Jésus avait. Tout l'amour que Jésus avait pour l'humanité, au cœur de sa passion. Et là, il a reçu une réponse de Dieu. Des chérubins sont venus et ont fait en sorte qu'il y a eu cette expérience d'être traversé dans sa chair, dans son corps. Et les stigmates, ce sont les plaies dans les deux mains, aux pieds et au cœur. 2 ans avant la mort de François d'Assise. Alors, on a une église qui rappelle cet événement qui a été répandu à travers le monde chrétien. Donc, c'est une église sobre. Il n'y a pas beaucoup de dorures, il n'y en a pas. J'en ai pas vu. C'est une grande église, et là, il y avait une dame qui passait le balai. Elle est en train de balayer une partie de l'église. Donc, ça a été une brève prière, et nous avons quitté ce lieu.
Voici maintenant les missives. Il s'agit de 18 lettres d'un descendant de Bernardo di Perugia, Bernard de Honfleur, ou descendant de Béic di La Fleur, Leonardo di La Fleur. Nous sommes 400 ans plus tard. C'est Bernard de Honfleur en France qui prend l'initiative. Il désire venir en Nouvelle-France et se raconte. Prise de son Yannick Caron, musique et bruitage François Couture. Cher Leonardo, je viens de terminer cette longue traversée sans passer par la France. Le bateau a dévié du côté de Malte, où nous avons accosté. Puis, nous sommes remontés vers le sud de l'Italie, et après quelques jours, nous étions à Rome. Quelle impression ! Une ville en ébullition ! On construit partout ! Il y a tellement de chapelles et d'églises ! Mes yeux allaient partout ! Mon premier bonheur fut de constater que les Italiens me comprenaient très bien. Ils me disaient que je m'exprimais mieux qu'eux. Je vous avoue en avoir été flatté. Le marchand entendait tout cela et souriait. Je crois qu'il m'apprécie. À peine arrivé, je fus intimidé par une de ces jeunes femmes qui m'en dit ce que vous ne penserez pas. Ce sont des prostituées qui traînent près des ports et attendent comme des appâts les marins du monde. Comme elle insistait, je lui demandai qui elle était. Elle me répondit qu'elle ne me le dirait qu'en secret. Eh bien, il n'y a pas eu de grande révélation, puisque le secret ne s'est jamais dévoilé. Je trouve triste ces vies, mais je ne juge pas, comme notre Seigneur nous le demande. Il a fait des traits sur le sol quand on lui a amené une femme de mauvaise vie. Cela m'a toujours frappé qu'il se soit penché pour écrire sur le sol, alors que tous les autres étaient debout comme des coqs, prêts à lapider la pauvre femme. Je me suis toujours demandé ce qu'il pouvait bien écrire. J'ai une idée. Ses traits devaient être le miroir de ces barbus qui, s'étant reconnus, ont plié bagage et laissé leur violence par terre. Le maître était à terre et leurs péchés rassemblés par terre, près du maître. Nos montagnes de pierres ne doivent jamais écraser personne. Je ne sais pas pourquoi je vous écris cela, mais c'est fait. J'ai vu le livre imprimé. Une merveille. Ils ont mis des dessins pour enjoliver les épistolaires. C'est très, très beau. Le cardinal Pinarti est fort aimable. Il connaissait le marchand et il l'appelait Seigneur. J'appris qu'il était un émissaire de Rome venu en Nouvelle-France et qu'il faisait partie d'une société secrète, comme les Templiers ou choses du même genre. J'ai senti qu'il aurait préféré que je ne le sache pas. Mais je ne fis aucune allusion à cette révélation. Le cardinal Pinardi désirait que nous rencontrions le pape, mais celui-ci était souffrant. On se rue à sa porte pour toutes sortes d'affaires. De mon côté, j'étais bien en dehors de tout ce cérémonial. Mais le marchand ne pensait pas la même chose. Il insista auprès du cardinal plusieurs fois. Je demandai si Assise était loin. On me répondit que c'était à près de 3 ou 4 jours de marche, ou moins, par d'autres moyens. Comme nous avions le temps, et que le marchand espérait la guérison du pape, nous sommes partis ensemble pour Assise avec une escorte du cardinal. Un carrosse nous a été dédié, et nous y étions après 2 jours. À San Damiano, devant le crucifix qui parla jadis à saint François, je n'entendis que le silence, probablement comme vous. J'aurais tant désiré me rendre à Perugia, mais le marchand désireux de voir le pape nous fit dormir une nuit seulement à Assise, chez l'évêque. Revenus dans la cité des empereurs, nous fûmes reçus par le pape. J'étais si ému. Le cardinal me présenta comme le descendant de Bernardo di Perugia. Comme il en avait été avisé, il avait prévu que le génie qui lui avait lu les épistolaires d'un trait soit présent. Le pape me fit dire qu'il désirait les imprimer en italien, comme s'il avait besoin de ma permission. Je ne dis pas un mot, mais avec la tête, j'acquiesçai. Le pape me souriait. Étrangement, il ne fit pas grand cas du marchand, devenu nerveux et à la limite impatient devant l'intérêt du pape pour le pauvre que je suis. Cela ne dura pas longtemps et nous sommes repartis. Le cardinal Pinardi, qui avait été témoin de la scène, voulut émousser la présence du marchand devant le pontife. Mais ce jour-là, l'énigme découverte nous bouda tous. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Le lendemain, il rencontrait seul un autre cardinal pour exposer ce qui concerne la Nouvelle-France. Quant à moi, je courais dans la ville devant le Colisée, les forums, les colonnes, les statues païennes et les fresques de notre foi. Tout était merveilleux pour moi. Le soir, le marchand me fit venir à ses appartements et me dit « Bernard, je vous demande pardon. J'aurais voulu disparaître. » Il poursuivit « J'ai sombré dans la jalousie lors de l'audience avec le pape. J'aurais dû me réjouir que vous ayez la première place. Vous avez toujours la dernière. Pardonnez-moi, je vous en prie. » Je me mis à pleurer sans pouvoir prononcer un mot. Alors, il se leva et m'amena près d'une grande fenêtre et dit « Regardez, Bernard, regardez le ciel. Ces étoiles sont aussi à Québec. Et nous avons ri ensemble. » Le secret des cœurs est troublant et si beau quand il se révèle dans la vérité. Prenons exemple sur ces personnes qui nous devancent. Le cardinal m'a confié qu'il n'avait pas reçu de missive pour moi, comme je l'espérais de votre part. Mais je vous comprends. Si vous n'en aviez pas encore la force, vous étiez trop faible. Je nous recommande à Notre-Dame. Bernard de Québec, vôtre. Rome. C'était Les Carnets du Soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.